France Inter.
Et voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une voix, une plume, les disparitions ce matin de la chanteuse Nicole Croisille et de l'écrivain Philippe Labraud, un pan de la culture française qui s'en va, la musique des films de Lelouch, le rêve américain, portrait croisé dans un instant. À suivre encore, le débat sur la sévérité des peines après les violences du week-end dernier. Ce débat rebondit en Conseil des ministres. La suspension de l'aide humanitaire à Gaza après des dizaines de morts ces derniers jours. Et puis nos zones commerciales accueilleront-elles des dizaines de milliers de logements dans les prochaines années? Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
De nombreux projets sont lancés.
Ah oui, notamment à Montigny-les-Cormeilles dans le Val-d'Oise, un projet de transformation de 20 hectares est lancé avec école, cabinet médical et des immeubles avec potentiellement 900 logements d'ici 15 à 20 ans. Reportage à venir.
A tout de suite. Nous parlerons également des pins Poilane, production arrêtée, problèmes sanitaires dans la manufacture, des sorties cinéma en ce mercredi et puis du rêve d'une jeune joueuse de tennis française. Elle a 22 ans, elle s'appelle Loïs Boisson. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Elle sera en lice dans quelques minutes en quart de finale à Roland-Garros.
Oui, Loïs Boisson va jouer pour l'histoire, pour une place en demi-finale, ce qu'aucune joueuse classée 361e mondiale n'a réussi à Roland-Garros. Il va falloir battre Mira Andreeva, la 6e mondiale, mais avec Loïs Boisson, tous les espoirs sont permis, même les plus fous.
On vous retrouve dans les prochaines minutes, à partir de 13h30, France Télévisions, grande gagnante de la nouvelle numérotation télé, France 4 arrive sur le canal 4 de la TNT. Après-demain, le patron des programmes de France Télé, Stéphane Sidbon-Gomez, est notre invité 0145 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Faut-il dire la vérité? S'interroge Eric Fotorino du 1 Hebdo. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la chanteuse Larousseau demande Gilbert Montagnier à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est une époque, les années 70, la chanteuse Nicole Croisille en est l'une des voix, elle enchaîne les succès. Quand le journaliste Philippe Labraud, lui, la raconte à la radio, RTL, dans ses romans et dans les paroles qu'il écrit pour Johnny Hallyday. On a donc appris leur mort à tous les deux ce matin, à l'âge de 88 ans, et on va s'arrêter sur ce qu'ils nous lèguent, avec Fanny Imbert et Margot Barallon. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Toutes les deux qui n'étaient pas nées dans les années 70. Fanny, avec vous d'abord, la vie de Philippe Labraud, comme celle de Nicole Croisille d'ailleurs, est marquée par sa découverte des États-Unis.
Dallas, 1 million d'habitants, c'est une énorme cité américaine, dure, sale, car il n'y a en réalité dans le centre de la ville que 3 grandes rues. Au bout d'une de ces rues, Kennedy devait mourir.
C'est la voix du jeune Philippe Labraud qu'on vient d'entendre. À la vingtaine, il travaille alors pour France Soir. Le président Kennedy vient d'être assassiné et il est parmi les premiers journalistes français sur place. On est en novembre 1963. Les États-Unis, il les découvre à 17 ans pour ses études et il les sillonne ensuite tout au long de sa vie, parfois en stop, parfois un micro à la main. Chez François Bunel, en 2012, il parle même de sa double culture.
Peut-être à l'âge de 6 ou 7 ans, quand je lisais James Oliver Curwood, James Fenimore Cooper et bien sûr Jack London. Plus à la libération, l'arrivée des GIs, mais peu à peu se construit sans doute sans que je m'en rende compte une double culture et une envie donc d'Amérique et de comprendre et de connaître ce pays.
Des États-Unis, il en garde un style de cow-boy selon ses propres mots et un regard sur le pays toujours pertinent pour le journaliste Michel Field, interrogé ce matin sur France Info.
Dès qu'il y avait des nouvelles de l'Amérique, il fallait l'écouter parce qu'il connaissait ça, il avait été biberonné. Ça a beaucoup influé à la fois sur sa manière de faire des films. Il voulait s'inspirer un peu de la nervosité du polar américain.
Et très jeune, justement, Labraud publie ses premiers romans avant de devenir un grand homme de médias.
Oui, journaliste pour Europe 1, Marie France, France Soir. Il présente aussi le journal d'Antenne 2 avant de diriger la rédaction de RTL pendant 15 ans. Très proche de Vincent Bolloré, il fonde avec le patron de presse la chaîne Direct 8 qui deviendra ensuite C8. Mais c'est aussi donc un auteur prolifique. Il signe une vingtaine de livres et un réalisateur. Il fait tourner Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu ou encore Jean-Louis Trintignant, ici dans 100 mobiles apparents.
Prévenez la police, dites-leur de boucler tout le quartier.
Il y a sûrement affaire à un fou.
Touche à tout, il fut aussi, vous l'avez dit, parolier pour Johnny Hallyday, mais aussi pour Jane Birkin ou encore Eddie Mitchell.
Alors Margot Barallon, vous avez passé la matinée à réécouter Nicole Croisille, une chanteuse avec une voix, et quelle voix, des tubes, Parlez-moi de lui, 73, Téléphone-moi, 75, et puis les chansons des films de Lelouch, dont Un homme et une femme.
Oui, le film, hein.
Le film qui a reçu la Palme d'Or en 1966 et la carrière de Nicole Croiset sont forcément indissociables. Je viens de joindre Claude Lelouch, très ému.
Elle a été, j'ai envie de dire, la voix de ma vie et de mes films. C'était une femme admirable qui avait tous les talents. Elle savait chanter, danser. C'était une femme courageuse. Nous avons fait une dizaine de films ensemble. Non, je suis triste, d'autant qu'elle était la dernière de l'équipe à partir. Manouk Aimé, Jean-Louis Trintignant, Pierre Baron, Francis Lay. La seule chose qui me console, c'est qu'elle est partie les rejoindre, que je pense qu'ils ont dû faire un triomphe.
Et le réalisateur de 87 ans se souvient très bien de sa première rencontre avec Nicole Croiset, un coup du hasard.
On venait de terminer avec Francis Lay, de trouver la musique du film, et je lui ai dit, il faut maintenant qu'on trouve la voix. Et un soir, par hasard, je suis allé boire un verre dans une boîte à Paris qui s'appelait le Bilboquet. Et là, il y avait un piano-bar, et elle chantait avec le piano-bar. Entre deux morceaux, je suis allé lui parler. Au départ, elle a cru que je la draguais. Et puis, ce soir-là, moi, je partais en Allemagne. Et très gentiment, elle m'a dit, si vous voulez, je vous accompagne, comme ça, on aura le temps de parler. Et pendant ce voyage, je lui ai raconté le film, et elle a commencé même à me chantonner tout son savoir-faire, tout ce qu'elle pouvait mettre à ma disposition.
Ouais, l'inoubliable Shabadabada de Nicole Croiset a encore résonné il y a quelques semaines seulement sur les marches de Cannes, puisque le festival avait justement choisi deux images du film Un homme et une femme pour en faire ses affiches officielles.
Nicole Croiset, qui était aussi danseuse et comédienne. Merci Fanny Imbert et Margot Barallon pour ce double hommage. On va reparler de cinéma dans une vingtaine de minutes avec Alexis Demeyer. Il y a eu les passes d'armes entre droite, gauche et extrême droite hier après-midi à l'Assemblée nationale, prolongées ce matin dans les matinales radio. Les violences post-festivités du sacre du Paris Saint-Germain samedi soir à Paris, mais aussi dans beaucoup d'autres villes de France, se sont invitées en Conseil des ministres ce matin, alors que les ministres de l'Intérieur et de la Justice demandent de concert des peines plus sévères pour les auteurs de dégradations. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée pour Inter. Alors le gouvernement annonce une initiative sans qu'on sache comment, puisqu'il n'a pas, faut-il le rappeler, de majorité à l'Assemblée.
Alors oui, une réflexion en cours, mais pas encore de méthode en effet. Voilà en résumé le cap défendu par le gouvernement. 4 jours à peine après les débordements dans la capitale et au lendemain des premières condamnations. Des condamnations qui n'ont pas été à la hauteur, a répété ce matin la porte-parole Sophie Primas, d'où la nécessité de réformer des peines minimales et la suppression du sursis, comme l'a proposé Gérald Darmanin. La reconnaissance faciale selon le souhait de Bruno Retailleau. Eh bien tout ça devra être inscrit dans la loi, insiste Sophie Prima.
Ce n'est pas la question des magistrats, comme je l'entends de temps en temps. C'est la question de la loi qui n'est pas aujourd'hui en lien avec l'évolution de la violence et l'évolution de ces difficultés sur le territoire.
Le garde des Sceaux a parlé d'un texte dès septembre, mais techniquement, on ne sait pas encore comment ça va s'articuler, tempère un conseiller gouvernemental. La porte-parole ne dit pas autre chose.
Nous ne sommes pas encore sûrs du chemin qui sera pris, mais l'engagement du gouvernement est sur le fait de légiférer.
Alors, est-ce que cette course à l'échalote en matière sécuritaire des poids lourds du gouvernement aura des conséquences ? Trop tôt pour le dire, lâche un ministre un peu agacé.
Jérôme Val, en direct de l'Élysée avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Le président de la République Emmanuel Macron, lui, ne s'est pas exprimé sur ce sujet ce matin, ni sur le meurtre de Puget-sur-Argens. Samedi, Hichem Mirawi, ce Tunisien d'une quarantaine d'années, tué par balle par son voisin, un homme lié à l'ultra-droite et qui a clairement expliqué son acte dans des messages par des motivations racistes. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
C'est le parquet national antiterroriste qui a été saisi pour l'enquête. C'est une première pour un meurtre raciste lié à l'ultra-droite. Et c'est une mouvance qui inquiète particulièrement les services de renseignement.
Oui, la mouvance d'ultra-droite, forte d'environ 2000 personnes, constitue une menace croissante. La deuxième menace terroriste derrière l'islam radical. Les deux se nourrissent d'ailleurs l'un de l'autre. Hein, le djihadisme qui cherche à fracturer la société et l'ultra-droite qui se prépare à une guerre civile contre les musulmans. La semaine prochaine, 16 personnes doivent être jugées à Paris, membres du groupe Action Force de l'Ordre, qui comprenaient d'anciens militaires. Elles avaient évoqué l'idée de s'en prendre à une mosquée ou d'empoisonner de la nourriture halal. Il y a eu plusieurs condamnations pour terrorisme récemment, jusqu'à 18 ans de réclusion criminelle pour un ancien gendarme du groupe néo-nazi Waffenkraft qui s'entraînait au tir en forêt et envisageait d'attaquer des mosquées ou des institutions juives. Il avait expliqué qu'il s'était radicalisé après les attentats de 2015. En octobre, se tiendra le procès en appel des Barjols, un groupe groupuscule d'ultra-droite accusé d'avoir voulu s'en prendre à Emmanuel Macron ou à des migrants. Comme l'islam radical, l'ultra-droite diffuse ses idées et recrute en ligne. Selon les services de renseignement, une douzaine d'attentats ont été déjoués en France ces dernières années.
Sarah Guibaudeau, ce matin, les ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont aussi répondus sur l'extraction la semaine prochaine de sa cellule du narcotrafiquant Mohamed Amra. Il doit être entendu par des juges à Paris, lui qui est détenu en Normandie et qui s'était évadé lors d'un transfèrement. Bruno Retailleau préférerait que le juge se déplace quand Gérald Darmanin se dit certain qu'il ne se passera rien. Fin de citation. Concurrence à droite, donc on le voit tous les jours. Alors dans ce contexte, comment peser dans le débat et exister jusqu'à l'élection présidentielle quand on est ni ministre, ni député? C'est la question qui se pose. Pour Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre à la cote de popularité flatteuse, était ce matin l'invité d'Inter et il adopte, Maxence Lambrec, la stratégie du sous-marin.
Oui, pour ne sortir de l'eau qu'une fois sa réélection à la mairie du Havre acquise en avril 2026. Encore une petite année donc à naviguer de sous-préfecture en PME, loin des micros, construire un réseau pour que chaque ville ait son ambassadeur et que ce soit si possible le ou la maire de la commune. Il mise beaucoup sur les municipales. Son livre aujourd'hui, comme son meeting à Marseille le mois dernier, participe de ses remontées à la surface pour ne pas se faire oublier. Il sent que ça se cristallise en ce moment, confie un de ses proches, que Bruno Retailleau a trouvé son créneau, que Gabriel Attal et Gérald Darmanin clivent et s'agitent trop. Lui, c'est sa force et sa faiblesse, il ne bouge quasiment pas. Il pensait capter une bonne partie des LR, Retailleau va l'en empêcher, analyse un de ses soutiens, mais lui a cette modernité qui peut fédérer le bloc central. Il entretient en effet de bonnes relations avec Pierre Moscovici et Elisabeth Borne, mais c'est un vrai Normand, raconte un de ses amis. Il attendra toujours le dernier moment avant de choisir une option, une campagne de centre-gauche, de centre-droit. Gérald attendait qu'il le choisisse comme son bras droit, futur Premier ministre, mais il ne fonctionne pas comme ça. Attendre avant de choisir, c'est aussi ce que les Français vont vivre.
Éclairage signé Maxence Lambrec. Marine Le Pen, elle n'est plus conseillère départementale du Pas-de-Calais. Le tribunal administratif de Lille a confirmé ce matin sa démission d'office, conséquence de sa condamnation pour détournement de fonds publics. La patronne des députés Rassemblement National annonce qu'elle va faire appel. Le fiasco est décidément total pour la Fondation humanitaire de Gaza. Cette fondation, créée de toutes pièces il y a quelques mois, est soutenue par les États-Unis et par Israël. Elle a décidé de fermer provisoirement ses centres de distribution d'aide alimentaire dans le territoire. Bonjour Noé Pignède.
Bonjour.
Il faut dire que ces distributions se sont transformées en bain de sang ces derniers jours.
Oui, lancée il y a une semaine, l'opération devait enfin apporter de la nourriture à la population gazaoui après deux mois de blocus total imposé par le gouvernement Netanyahou. C'est tout simplement un échec, bilan catastrophique. Dès le premier jour, on a vu des images de gazaouis venus chercher de la nourriture, parqués dans des cages, puis des dizaines de blessés par balle affluaient dans les hôpitaux il y a deux jours. C'est une distribution à Rafah qui a terminé en bain de sang, 31 personnes abattues par des soldats israéliens selon la défense civile palestinienne. Et hier encore, 27 Gazaouis ont été tués au même endroit. Ils nous affament, nous obligent à leur mendier de la nourriture, puis nous tirent dessus, me résumait par message une Gazaoui. La Gaza Humanitarian Foundation se défend et promet de rouvrir ses centres dès demain après des travaux de rénovation et d'amélioration de l'efficacité. Seule organisation à être autorisée à faire entrer des vivres dans l'enclave, les 2,4 millions de Gazaouis se retrouvent à nouveau privés de tout. Les centaines de camions des autres ONG qui pourraient prendre le relais sont toujours interdits d'accès par Israël.
Merci Noé Pignède pour ces précisions. L'Espagne est l'un des pays les plus critiques vis-à-vis du gouvernement israélien. Le pays annule l'achat de 168 lanceurs et 1680 missiles anti-chars à une entreprise israélienne, contrat à 300 millions d'euros selon les estimations du journal El País. Et ce matin sur France Inter, c'est l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, qui a vivement critiqué la politique du gouvernement Netanyahou, mais également l'impuissance des autres pays à l'arrêter.
On n'a jamais mené une guerre pareille. D'ailleurs, il n'y a plus de guerre. La guerre est terminée depuis longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un assaut barbare contre une population civile.
Donc il y a eu au départ une guerre d'autodéfense, une guerre juste.
Bien sûr.
Il y a duré combien de temps selon vous ?
2-3 mois, et c'est tout. Ce qui s'est passé après, c'est que la guerre s'est muée à une opération purement politique de survie de la coalition de M. Netanyahou et de Netanyahou lui-même. C'est politique et c'est personnel en même temps. C'est politique parce que c'est un outil politique de survie personnelle. Et si on n'arrête pas, si ceux qui peuvent l'arrêter ne l'arrêtent pas. Eh bien, on continuera comme ça jusqu'il ne reste plus rien à Gaza. À ce moment-là, il pourra dire que la victoire totale qu'il nous promet depuis le début de l'opération est enfin atteinte et on se sera rendu coupable d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité massif.
Elie Barnavi au micro de Sonia De Villers. Autre drame humanitaire pour les Afghans contraints de quitter le Pakistan voisin où ils sont 3 millions à être réfugiés. 200 000 Afghans sont déjà repassés de force de l'autre côté de la frontière depuis début avril. Les Pakistanais les accusent d'être liés au terrorisme et au narcotrafic. Ils retournent dans un pays qui n'est pas prêt à les accueillir, estime le Haut Commissariat aux réfugiés.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
C'est un pain facilement reconnaissable, croûte épaisse, tout en longueur. C'est aussi une saga familiale, celle des Poilanes à Paris, 5 boulangeries dans la capitale et une à Londres qui fournissent des supermarchés partout en France comme Monoprix ou encore Auchan. Et bien la manufacture de Bièvre dans l'Essonne vient d'être fermée en urgence par arrêté préfectoral. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour à tous.
Tout cela pour des raisons sanitaires. Des vidéos disponibles montrent des souris dans cette manufacture.
Des souris tour à tour filant sur le sol au milieu de déjections, grimpant sur des plateaux, des palettes disparaissant dans des sacs de farines éventrées. Image sacrément écornée pour la célèbre maison française dont l'entrée de la manufacture est depuis vendredi ornée d'un arrêté préfectoral placardé aux portes. Deux jours plus tôt, les inspecteurs de la direction départementale de la protection des populations ont relevé des conditions d'hygiène déplorable, déjections et urines de rongeurs, rongeurs morts, insectes volants et rampants, encombrement et saleté générale des locaux et des équipements. L'arrêté préfectoral évoque un danger grave et imminent pour la santé publique. La production est donc à l'arrêt total dans cette manufacture qui alimente certaines boulangeries Poilanes, des restaurants et surtout de nombreux supermarchés comme Auchan ou Monoprix. Choc économique mais aussi symbolique pour cette entreprise quasi centenaire comptant 114 salariés et qui sort à peine d'une procédure de sauvegarde. La manufacture Poilanes dont la PDG assure au journal Le Parisien qu'elle a immédiatement engagé un nettoyage complet, va maintenant rester fermée jusqu'à sa remise en conformité. Conformité qui devra être vérifiée par une nouvelle inspection de la DDPP.
Sarah Mansoura, des boulangeries, des chaînes de boulangeries plutôt, mais aussi des grandes surfaces, des magasins de vêtements, entre autres, vous connaissez les zones commerciales qui ceinturent nos villes et qui se sont multipliées ces dernières années. 70% des Français déclarent les fréquenter au moins une fois par mois. Mais sont-ils prêts à y habiter dans une France qui manque de logements? Les projets dans ces zones sont de plus en plus nombreux. Une étude du groupe immobilier ICAD et du groupe SKET, filiale de la Caisse des dépôts, estime que le potentiel est d'1 600 000 logements neufs. Luc Chemla, on vous retrouve. Vous avez suivi l'un de ces projets, vous êtes rendu à Montigny-les-Corbeilles. 22 000 habitants, c'est dans le Val-d'Oise.
Ah oui, au bord de la RD14 qui coupe la ville en deux avec un flot incessant de voitures. Actuellement, on voit des panneaux publicitaires à perte de vue, un enchaînement de dizaines de commerces et le maire Miloud Gouel le reconnaît lui-même.
C'est vieillot, c'est des boîtes à chaussures, ça fait vraiment moche. Tout ça va être rasé, va être requalifié.
En une zone habitable d'une vingtaine d'hectares avec espaces verts, écoles, cabinets médicaux et des immeubles de 5 étages maximum.
Commerce de proximité en bas, logement en haut. Et derrière, une allée piétonne.
Objectif, créer 900 logements d'ici 15 à 20 ans.
L'État dit qu'il faut construire parce qu'il faut des logements. Donc nous, on répond aux critères de l'État. Beaucoup de promoteurs nous contactent pour participer à la construction de ce centre-ville.
D'après le baromètre, 26% des Français sont prêts à habiter dans ces nouveaux quartiers. À Montigny-les-Cormeilles, c'est le cas de Jean-Christophe, 38 ans. Il a acheté un 3 pièces dans un des futurs immeubles de cette zone. Et voilà pourquoi.
On n'a pas réellement de centre-ville avec des petits commerces de proximité comme une boulangerie, un boucher, un café, etc. Et l'idée, justement, c'est de ramener des enseignes. Le développement autour de ces logements, tout ça, c'est ce qui m'a fait acheter à cet endroit-là. En fait, le potentiel futur.
Plus largement, transformer ces entrées de ville permet en partie de répondre à la crise immobilière, explique Charles-Emmanuel Kuhn, d'ICAD Promotion, co-auteur de l'étude.
Ça permet de soutenir l'offre de nouveaux logements. Offre qui manque parfois dans un grand nombre de villes. Ouais. Il y a une tension sur le marché locatif, notamment. La crise qu'on connaît maintenant depuis 2 ans fait qu'on a des volumes de production de logements neufs qui sont en forte baisse sur 2023 et 2024. Et c'est quelque chose qui va vraisemblablement s'accentuer.
Selon l'étude, dans ces zones, plus de 120 000 logements pourraient être mis en chantier sur la prochaine mandature municipale 2026-2032.
Luc Chemla pour ce reportage. Le bilan météo du printemps en France, livré ce matin par Météo France. Notre pays a connu son troisième printemps le plus chaud depuis le début des mesures en 1900, avec un mercure supérieur en moyenne de 1,1 degré au normal récente. Particulièrement sec ce printemps dans la moitié nord, avec des déficit de précipitations qui atteignent 40% sur les régions au nord de la Loire et parfois même 50 à 70% de la Mayenne aux Hauts-de-France et à la Champagne. Prévision météo de Sébastien Léas dans une dizaine de minutes. C'est l'examen en France qui réunit le plus de candidats, le code de la route. Et c'est aussi un parcours du combattant pour les personnes sourdes et malentendantes. Elles seraient environ 4000 parmi les plus de 2 millions de personnes qui le passent chaque année. Mais nouveauté, à partir de cet été, l'aura du lieu, l'examen du code sera intégralement disponible en langue des signes française.
Arthur Badoc est sourd et muet. Il prend actuellement des leçons de conduite après avoir obtenu son code de la route en version adaptée à sa surdité, comme il l'explique avec l'aide de sa traductrice.
Il y avait un interprète lors de l'examen et j'avais le droit à un tiers temps, le temps qu'on ait bien compris le sens des questions, moi et les autres personnes présentes.
Et oui, car les personnes sourdes de naissance ont beaucoup de difficultés à comprendre la langue écrite.
Si les sourds ne comprennent pas la langue française, c'est qu'ils ne l'ont jamais entendue.
Jacques Ibarro est moniteur d'auto-école. C'est lui qui a dirigé toute la traduction de l'examen.
La langue des signes est visuelle. Induire la réponse peut être très facile en langue des signes. Donc il faut essayer de rester neutre au niveau du visage, mais être expressif quand il y a besoin.
D'où l'intérêt d'uniformiser la traduction avec la vidéo d'un traducteur désormais insérée directement dans les questions. Il s'agit là d'égalité, selon Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière.
La personne qui avait besoin d'une traduction, elle devait attendre qu'il y ait une session qui soit organisée, elle devait rechercher un traducteur agréé par la cour d'appel, elle devait le mobiliser, éventuellement le payer. C'est vraiment de donner les droits aux personnes de passer l'épreuve du code de la route dans de bonnes conditions.
Traduction devrait permettre environ 2 sessions par mois dans chaque département pour les personnes sourdes, contre 1 à 2 par an seulement aujourd'hui.
Reportage Laura Dulieu. Elle veut vivre son heure de gloire cette semaine à Roland-Garros à 22 ans. La Française Loïse Boisson va disputer dans les prochaines minutes son premier quart de finale en Grand Chelem. Elle qui a dû en passer par les qualifications pour participer à ce tournoi. Fabrice Abgral, on vous retrouve en direct. On va évidemment parler de ce choc face à la Russe Andreeva avec vous. D'abord, on connaît peut-être la future adversaire de la Française, puisque l'Américaine Coco Gauff vient de se qualifier.
En effet, Coco Gauff vient de se qualifier, la numéro 2 mondiale et finaliste à Roland-Garros en 2022. Coco Gauff a battu sa compatriote Madison Keys en 3-7, 6-7, 6-4, 6-1.
Et donc, place à Loïse Boisson maintenant. Comment va-t-elle gérer l'événement? C'est la question qu'on se pose.
Bah évidemment, Loïse Boisson va tenter en tout cas de poursuivre ce conte de fées, elle nage en plein bonheur, surtout après ce qui lui est arrivé l'an passé avec cette grave blessure au genou. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe cette année pour elle est complètement inattendu et irréel. Mais elle s'est mise dans une situation aujourd'hui où les rêves les plus fous peuvent se réaliser. Reste maintenant, vous l'avez dit, à savoir comment émotionnellement la 361e mondiale va gérer l'événement, l'enjeu et son adversaire, une adversaire redoutable, Mira Andreeva, la surdouée de 18 ans, la numéro 6 mondiale, demi-finaliste l'an passé. Loïse Boisson a bénéficié jusque-là d'un effet de surprise dont elle ne pourra pas forcément profiter aujourd'hui, mais peu importe, elle possède un tennis pour sinon battre, du moins inquiéter la Russe. À elle maintenant de tout mettre en place, hein, comme elle a su le faire face à Pegula, la numéro 3 mondiale, en quart de finale. Alors si elle s'impose, elle sera la première française à atteindre les demi-finales à Roland-Garros depuis Marion Bartoli en 2011. Elle sera la première joueuse invitée à rejoindre le dernier carré. Elle sera aussi la joueuse la plus mal classée à atteindre les demi-finales. Maintenant, on attend d'ici, allez, 20-25 minutes, début du match.
Merci Fabrice Abgral en direct de Roland-Garros. Encore un mot de sport avec ce transfert d'une des meilleures joueuses de football française, Marie-Antoinette Katoto du Paris Saint-Germain, qui signe un contrat de 4 ans en faveur de l'Olympique Lyonnais. Le cinéma.
Moteur.
T'as de beaux yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Les sorties de ce mercredi avec Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
On commence avec Dans la peau. C'est un film 100% marseillais qui a retenu votre attention.
Yeah, yeah.
C'est dans le milieu de la danse hip-hop que nous plonge le réalisateur Pascal Tessot pour son deuxième long métrage, 11 ans après le formidable Brooklyn consacré au rap. Dans la peau, c'est l'histoire de Kalim, un trentenaire qui retrouve les quartiers nord de Marseille après une peine de prison et qui compte bien renouer avec sa passion pour le crump, un style de danse particulièrement cinégénique, malgré son petit budget et les faiblesses narratives qui vont parfois avec. Cette comédie dramatique parvient à nous émouvoir, conjuguant urgence sociale et finesse sentimentale.
À l'affiche également un biopic sur Freud.
Oui, ce film britannique intitulé « La dernière confession » s'intéresse aux derniers jours de la vie du fondateur de la psychanalyse. Nous sommes en 1939 à Londres. Sigmund Freud, 83 ans, a dû fuir l'Autriche et le nazisme et il résiste tant bien que mal à un cancer du maxillaire. C'est le décidément infatigable Anthony Hopkins qui l'incarne.
Dr. Freud.
Sit, please. Not there. That's the transformation couch. You be careful.
Alors, la belle idée du film, c'est d'imaginer la rencontre entre Freud et l'écrivain C.S. Lewis, l'auteur de la saga Le Monde de Narnia. Les deux hommes évoquent leur rapport à la religion, provoquant quelques dialogues savoureux. Dommage que la mise en scène de Matthew Brown soit si classique, avec des flashbacks pas forcément très inspirés.
Une comédie avec Denis Podalydès vous laisse également sur votre faim, Alexis. Ça s'appelle Le Répondeur.
Oui, car même si l'idée de départ est un peu tarabiscotée, un écrivain à succès qui embauche un imitateur pour répondre à sa place au téléphone, elle était, cette idée, la promesse de gag en cascade.
À quoi vous jouez, Baptiste ?
Vous m'avez demandé d'improviser. J'ai improvisé.
Si Denis Podalydès est un peu en pilote automatique, son partenaire de jeu Salif Cissé est lui en très grande forme. C'est donc frustrant de ne pas avoir un scénario au diapason et de ne pas avoir mieux exploité la piste de la satire sociale que cette ubérisation des rapports humains aurait pourtant permis.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Ballerina, un produit dérivé de la franchise John Wick avec Ana de Armas en tueuse à gages. Fragment d'un parcours amoureux, un documentaire à la première personne dans lequel Chloé Barreau raconte sa vie sentimentale depuis ses 16 ans et Claude, un polar du japonais Kiyoshi Kurosawa, dont Corinne Pellissier vous reparlera ce soir dans Un jour dans le monde.
Merci Alexis Demeyer, 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas, puis à partir de 13h30, Stéphane Sidbon Gomez, le directeur des programmes de France Télévisions, et notre invité. On va parler de la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT. Beaucoup de changements pour les téléspectateurs que vous êtes peut-être. À partir de vendredi, j'attends toutes vos questions, également sur les programmes de France Télévisions. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton. Nous étions hier en direct de Nice avec des pêcheurs. On va continuer de parler de la pêche. Du bateau jusqu'à l'assiette, premier épisode. Dans un quart d'heure, nous serons au Cap Ferrat. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, toute la vérité, rien que la vérité avec vous.
Oui Jérôme, on dit parfois que la vérité est la première victime de la guerre, mais dans nos sociétés hystérisées par les réseaux sociaux et plus exposées que jamais à l'intelligence artificielle, le mensonge prospère partout.
Et avec vous, Frédéric, une chanteuse.
Chanteuse, connue notamment pour son tube « Tu m'oublieras ». Il s'agit de Larousseau. Et avec elle, nous parlons de Gilbert Montagnier, chanteur qu'elle a beaucoup écouté quand elle était petite et qu'elle écoute encore beaucoup.
Très bien, merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Cette année, la France accueille le Brésil. Découvrez le meilleur de la création artistique brésilienne partout en France jusqu'en septembre. Expositions, concerts, spectacles vivants, fêtes, rencontres. Plongez au cœur d'une culture riche et foisonnante pour fêter les 200 ans d'amitié des deux pays. La saison Brésil-France 2025, une grande célébration à ne pas manquer. Tous les détails de la programmation à retrouver sur brésilfrance2025.com avec le soutien du gouvernement brésilien.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pensez à covoiturer.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Attention aux averses et aux orages cet après-midi.
Oui, 9 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange pour des risques d'averses intenses et d'orages forts avec des risques de grêle. Cette vigilance orange prendra fin vers 16h sur la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Ain. Mais pour les Savoies, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, il faudra attendre la fin de journée. Des averses se développeront également cet après-midi, des Landes au Pays Basque jusqu'au Limousin, au centre-Val de Loire et aux Ardennes, ainsi qu'entre le Gard et la Provence et de la Franche-Comté à l'Alsace et la Moselle. Sur le reste du pays, les nuages seront aussi prédominants, mais les averses seront plus faibles et plus localisées. Des éclaircies arriveront même à se dessiner en Corse et entre les côtes de la Manche, la Gironde, le bassin parisien et les Hauts-de-France. Le soleil fera même son retour sur les Flandres. Et puis avec ces conditions agitées, l'ambiance se rafraîchit nettement. Les maximales seront même globalement un peu juste pour la saison avec 17 à 23 degrés. En général, prévoyez 20 degrés à Lille, Nancy, Lyon et La Rochelle, 21 degrés à Strasbourg, Bordeaux et à Toulouse, ou encore 22 degrés à Paris. Il n'y a bien qu'autour de la Méditerranée qu'il fera encore chaud cet après-midi, malgré la baisse, 26 à Marseille et jusqu'à 30 degrés à Ajaccio.
Et nous y serons dans un quart d'heure dans notre feuilleton. Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Stéphane Cidbon-Gomez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter dans ce 13-14. Directeur des programmes de France Télévisions. France Télé qui va vivre de grands changements après-demain avec la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT. Il y a deux changements majeurs pour vos chaînes. France 4 qui va occuper désormais le canal 4. Laissé libre par Canal+, qui quitte la TNT pour protester contre l'arrêt de sa chaîne C8. C'est le même groupe, ce qui va donc nous donner France 2, France 3, France 4 et France 5 à la suite. Et puis autre changement, ça c'est pour la chaîne France Info, puisque toutes les chaînes d'infos en continu seront désormais rassemblées et France Info va occuper le canal 16 à la suite de BFM, de CNews et de LCI. Alors, qu'en attendez-vous? Vous, téléspectateurs, qu'en attendez-vous, vous, directeur des programmes de France Télévisions, qu'allez-vous proposer aussi aux téléspectateurs dans les prochains jours? 01 45 24 7000 pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Vous passez également via l'application Radio France. Stéphane Cidbon-Gomez, on n'avait pas vu de tel changement depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que les programmes sont prêts?
Vous avez raison, vendredi c'est le 6 juin. Et c'est le D-Day pour la télévision. Ça fait 20 ans qu'on n'avait pas vu une telle révolution. Vous vous souvenez, le lancement de la TNT, c'était beaucoup de chaînes. Tout d'un coup, on était passé de 6 chaînes et aujourd'hui, on en a 27. Et là, ce n'est pas nous qui avons pris la décision à France Télévisions, c'est l'ARCOM qui a décidé d'une nouvelle numérotation. Et c'est un changement historique parce que ça a donné un meilleur service aux Français, un meilleur service au public.
Pourquoi un meilleur service ?
D'abord parce qu'en regroupant les chaînes d'information, en ayant un bloc de chaînes d'information, en fait, tout le monde va pouvoir avoir accès au pluralisme. Enfin, on a 4 chaînes, 4 offres différentes,
on peut comparer plus
4 manières d'éditorialiser. En tout cas, on peut aller au-delà du canal 16 ou au moins retrouver d'autres choses sur les antennes. Et puis, avec un bloc de services publics, la 2, la 3, la 4, la 5... Les téléspectateurs vont pouvoir avoir accès à la richesse de l'offre du service public, notamment les téléspectateurs les plus jeunes. Vous savez, aujourd'hui, il y a une concurrence incroyable avec les plateformes. Les parents mettent leurs enfants aujourd'hui devant YouTube. Nous, sur France 4, depuis 15 ans, on a une offre extrêmement éditorialisée, extrêmement riche pour les enfants, et elle va être enfin accessible au plus grand nombre.
On va venir dans une minute sur ce qu'on va trouver sur cette chaîne, sur France 4, qui s'appelle France 4 d'ailleurs
Qui s'appelle France 4
et qui
va garder son nom, ouais, France 2, France 3, France 4, France 5, mais autre révolution, et je crois que vous y venez, c'est à l'antenne, vous ne verrez plus un numéro, vous verrez une marque, France TV, qui est aussi la marque de notre plateforme, pour dire en fait, où que vous soyez, le service public vous offre les contenus de l'audiovisuel public. Vous n'avez pas une série de France 2, une série de France 3, vous avez les contenus du service public à disposition.
C'est un cadeau tombé du ciel que vous fait l'ARCOM, France 4 qui arrive sur le canal 4.
Alors c'est un cadeau logique, France 4 qui s'appelle France 4 depuis 15 ans et qui arrive sur le canal 4, on peut se dire on aurait pu le faire avant.
Certes.
Mais oui, c'est un petit miracle, c'est un petit miracle pour France 4, c'est un petit miracle pour le service public, mais au-delà de nous, je pense que c'est un joli cadeau fait aux Français d'avoir accès comme ça à une meilleure offre de télévision. Aujourd'hui, on a une concurrence énorme des médias, je le disais pour les enfants, mais c'est vrai pour nous tous. On a plein de propositions différentes. Et avoir montré que la télé a une richesse une profondeur d'offre, une richesse de catalogue, c'est un vrai service rendu aux Français.
Il y a un effet immédiat sur l'audience quand on avance de 10 canaux, comme ça va être le cas de France 4 après-demain ?
J'espère. J'espère. Aujourd'hui, on sait que le zapping amène... On a tendance à être un peu feignant en tant que téléspectateur. On zappe pas trop loin sur la numérotation. Et notamment, les chaînes info LCI, BFM, en canal 26-27, elles souffraient un peu d'une sous-exposition. Donc oui, normalement, la nouvelle numérotation, elle va renforcer l'audience, mais elle va surtout renforcer la cohérence.
Quels objectifs d'audience pour France 4 ?
Je sais pas si je fixe un chiffre, on sait fixer des chiffres en interne, mais France 4 a une double nature, je vous disais, sur les enfants, on veut continuer de progresser, c'est très important pour nous de continuer à rajeunir le service public. Aujourd'hui, le service public, il est puissant sur les jeunes. Et puis en soirée, France 4 a une programmation 100% culturelle. Vous savez, c'est extrêmement rare, ça n'existe quasiment nulle part, d'avoir une chaîne où tous les soirs, vous avez un spectacle vivant, du cinéma d'art et d'essai. Et là, j'ai vraiment envie, j'espère, on espère qu'on va beaucoup progresser en audience pour que les Français aient accès à la diversité, à la richesse de la proposition culturelle.
Un point d'audience, ça serait bien ?
Ouais, c'est une très bonne idée. Je reprends votre objectif.
Je vous demande si c'est votre objectif.
Oui, c'est l'objectif qu'on s'est fixé dans un an d'être autour du point d'audience. Mais encore une fois, quand on travaille... sur des propositions aussi exigeantes culturellement et spécifiques sur les jeunes, on ne cherche pas absolument à faire une course à l'audience.
Alors, j'ai regardé le programme de France 4 pour aujourd'hui. Beaucoup de dessins animés, un peu de tennis dans la matinée, à nouveau des programmes jeunesse en ce moment, et puis dans l'après-midi jusqu'à 20h-21h, et puis en soirée, de la musique, des concerts. Quelle est l'identité de cette chaîne ? Quelle est la cohérence ?
Une double identité, c'est un choix qu'on a fait il y a 4 ans, parce que c'est une chaîne qui est dédiée à la jeunesse. Mais vous êtes au courant, il y a un truc qui arrive aux enfants autour entre 20h et 21h, c'est qu'ils vont se coucher.
Normalement, c'est entre 20h et 21h, oui.
Voilà, il y a des chaînes jeunesse dans le monde qui carrément s'arrêtent là. Et nous, on s'est dit que ce serait dommage de s'arrêter là. Et donc, on a profité de cette vitrine incroyable pour mettre en avant le spectacle vivant. Vous savez, avant, on disait à la télé...
Ça veut dire qu'il y a plusieurs cibles ?
Il y a deux cibles. Il y a deux cibles, il y a deux publics. On va essayer de travailler la cohérence, rendre le spectacle vivant plus accessible aux familles. Mais oui, il y a deux cibles et on l'assume comme ça parce que pour nous, c'est une vitrine incroyable. Il y a quelques années, on disait finalement à la télévision, la culture, c'est la nuit et l'été. Et le choix qu'on a fait il y a 4 ans, c'est de dire non, c'est tous les soirs et en prime time, tous les soirs à 21h, vous avez accès à une très belle offre culturelle. Vous savez, en France, on a une richesse de l'offre culturelle incroyable sur tout le territoire. Mais on n'habite pas tous à Paris, on n'habite pas tous près des grandes salles. On peut rater plein de spectacles et c'est à nous de les rendre accessibles.
Donc des pièces de théâtre, à quelle fréquence ?
Il y a du théâtre toutes les semaines, il y a de l'opéra, du ballet. On va aussi s'ouvrir un peu plus à la pop culture. Et d'ailleurs, dès vendredi, je vous invite à regarder, on va être en direct de Wheel of Green, le festival qui a une proposition très éclectique et très riche musicalement. Et on va faire la soirée de lancement de France 4 depuis le festival Wheel of Green. Et ça va nous permettre de tout l'été, et typiquement quand je dis rendre accessible, tous les festivals de France, qui sont quand même très nombreux, tous les festivals musicaux, seront accessibles sur France 4 en direct ou à J+1, J+2, pour pouvoir vivre en symbiose l'événement culturel.
Wheel of Green, dont France Inter est également partenaire, je le précise. Est-ce que ce sera la chaîne du direct ou est-ce que c'est davantage une chaîne du replay qu'on peut regarder plus tard ?
On essaye plutôt de se rapprocher du direct. Ce n'est pas une promesse de direct permanente. Mais on a cette capacité d'avoir un très grand catalogue. Je ne crois pas que la culture ait uniquement une vocation de replay. Il y a un côté puissant dans l'événement culturel, dans le moment qu'on vit. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé plutôt de rapprocher les captations, je vous le dis avec les festivals, du moment où ça se passe, que vous puissiez le vivre à la télé chez vous, au moment où le spectacle se produit.
Pour parler des programmes jeunesse, des dessins animés qui sont diffusés, est-ce que c'est une bonne idée de conseiller aux parents de mettre leurs enfants le matin devant des dessins animés avant d'aller à l'école ?
Alors, il y a beaucoup d'études sur le sujet, et notamment sur l'importance que ça peut avoir après l'école. Il y a aujourd'hui une offre d'animation française extrêmement riche, extrêmement puissante, avec des créateurs qui sont parmi les meilleurs du monde. Vous ne savez pas forcément, mais la France, c'est le deuxième pays de création de dessins animés dans le monde. On doit aujourd'hui, et je dis à tous les parents qui nous écoutent, vous avez raison, consommez avec modération les écrans.
On dit attention aux écrans, mais on propose mais, sur une chaîne du service public
vous,
des dessins animés.
Mais quand vous regardez vos écrans, regardez des dessins animés de qualité, regardez des dessins animés français. Je vais vous dire, regardez La Petite Casbah, un dessin animé qui raconte la guerre d'Algérie à hauteur d'enfant. Regardez La Vie de Château, une comédie familiale qui raconte aussi les différences sociales. Regardez la beauté aujourd'hui de la créativité française. Vous savez que la bande dessinée est aujourd'hui un genre qui explose en librairie. Mmh. C'est le cas des dessins animés. Et quand vous montrez ça à vos enfants, vous les éveillez.
Vous avez la proportion de dessins animés réalisés en France dans ceux qui sont
diffusés sur l'antenne de France 4. On est à 80% de création française. C'est quelque chose d'unique au monde. Il n'y a pas d'autre pays qui peut s'enorgueillir, à part peut-être les États-Unis, d'avoir une telle place prépondérante à sa production locale.
Germain nous appelle de Lyon. Bonjour Germain.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
En fait, j'avais une question simple pour le spectateur qui a l'habitude de l'identité des chaînes de France 2, France 3, France 4, avec cette mue qui s'annonce en mode plateforme. Uh-huh. Et sous la bannière de France Télévisions, j'aurais juste voulu savoir qu'est-ce qui va se passer le 6 juin au niveau de l'identité de nos chaînes. Est-ce qu'elles vont effacer chacune leur identité au profit d'un seul et unique habillage et comment s'y retrouver dans nos rendez-vous du soir quant à savoir si on va sur France 2, France 3, etc., si on a le même logo partout. Concrètement, comment ça se passe ?
L'identité, merci Germain pour cette question. Stéphane Cidbon-Gomez vous répond.
L'identité des chaînes, leur cohérence, leur habillage, il sera préservé. Ce qui va changer, c'est que vous n'aurez plus le petit logo chiffré que vous avez en haut depuis aujourd'hui une dizaine d'années. Alors, je sais que c'est un point de repère qui inquiète certains téléspectateurs.
Vous recevez des courriers ?
Non.
D'accord.
Très peu. Aujourd'hui, par contre, la BBC en Angleterre, elle a fait ce changement il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est dit, un logo, c'est une signature, c'est pas un numéro. Et donc, cette capacité qu'on a à se repérer, en fait, on se rend compte que les téléspectateurs, ils savent très bien trouver le programme là où il se trouve. Vous avez plein de chaînes aujourd'hui à la télé qui ne s'appellent pas du nom d'un numéro. Mais par contre, vous savez très bien trouver leur programme. Donc oui, vous aurez toujours vos chaînes, mais elles seront toutes logotées d'un seul nom, d'une seule marque, France TV.
Programme jeunesse, donc essentiellement sur France 4, que ce soit des dessins animés ou de la culture. Le soir, on a parlé du spectacle vivant et des festivals. L'âge moyen des téléspectateurs français, Stéphane Cidbon-Gomez, il était de 57 ans en 2022, 48 ans en 2010. Donc on voit que la moyenne d'âge s'élève petit à petit. Le rajeunissement, c'est une bataille qui est perdue d'avance.
Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le public, il a changé sa manière de consommer. Sur notre plateforme France.tv aujourd'hui, qui est la première plateforme de streaming gratuite en France, avec là, au mois de mai, 39,7 millions de Français qui se sont connectés, donc presque 40 millions de Français, et une moyenne d'âge de 49 ans. Donc en fait, les plus jeunes, ils ont changé leurs habitudes de consommation surtout. Je pense que se dire qu'ils vont être très nombreux à revenir sur un linéaire, c'est pas certain. En revanche, c'est à nous d'être capables d'offrir le meilleur des deux mondes aux téléspectateurs qui ont toujours l'habitude du linéaire, qui sont contents d'allumer leur télé, qui ont la force du direct, qui sont contents de voir des événements. Et puis, on l'a vécu au moment des Jeux Olympiques. En fait, les Français, ils savent très bien rallumer leur poste de télévision et la télévision linéaire quand ils veulent vivre un événement. Et puis, une plateforme qui vous permet, quand vous voulez, quand vous avez envie, de regarder votre programme.
Mais est-ce que l'avenir, ça reste les chaînes ? Est-ce que ce ne sera pas uniquement des plateformes ?
L'avenir, il se passe surtout du côté des plateformes. Après, je pense qu'il faut faire attention à ne pas enterrer trop vite les chaînes. La force du direct est très importante. Je pense à quelque chose, vous en avez parlé dans votre journal. Aujourd'hui, Philippe Labro nous a quittés. Il était un des premiers à avoir fait le pari de la TNT. Il était un visionnaire des médias.
Il a investi la TNT d'ailleurs.
Et ouais. Il a investi la TNT, le premier, c'était à l'époque Direct 8. Et il disait, non, vous vous trompez, à tous les anciens dirigeants de médias qui disaient ça ne marchera jamais, il a été un des premiers à porter. Donc il faut toujours avoir un temps d'avance sur les évolutions des médias.
Juliette est en ligne avec nous. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris, nous vous écoutons.
Voilà. Ma question sera simple. Serait-il possible d'avoir plus de films récents diffusés, notamment sur les chaînes France 2, France 3 ou France 4, peu importe, ou France 5, la chaîne publique, et également du théâtre et un peu moins de films policiers. qui, à mon sens, sont très nombreux.
Moins de polars. Voilà. Merci, voilà. Juliette. Stéphane Sidbon-Gomez.
Alors, du cinéma plus récent aujourd'hui, vous avez notamment en coproduction française, nous on produit 70 films par an, et sur France 2, vous avez une œuvre d'une très grande richesse qui vous paraît pas toujours totalement récente, parce qu'avec la chronologie des médias, ils ont tendance à arriver plutôt 2 ans et demi, 3 ans après, à l'antenne, après qu'il soit sorti en salle. Du théâtre, vous en aurez sur France 4 tous les dimanches soirs, très belle programmation de théâtre, je vous invite à regarder. Le polar, c'est un débat qui existe dans le monde entier, hein. C'est le genre majeur à la télévision. On en faisait autour de 80% il y a 5 ans, aujourd'hui on est autour de 50%. C'est ce qui concentre aussi les meilleures audiences, mais c'est ce qui nous permet d'aborder tous les sujets de société. Donc oui, vous en aurez moins qu'avant, pour vous répondre, mais vous en aurez toujours, parce que c'est un plaisir coupable qu'on aime beaucoup.
Avec quel budget, Stéphane Sidbon-Gomez, le budget de France Télévisions pour 2025 est en déficit, 40 millions d'euros. Est-ce que vous réussirez à retrouver l'équilibre l'an prochain ?
On espère, on est comme Radio France, comme France Média Monde, soumis à une très forte cure d'austérité, réduction des ressources publiques. C'est évidemment dans un
80
contexte...
80 millions d'euros en moins, c'est ça ?
Voilà, dans un contexte budgétaire qu'on connaît, qui n'est pas facile pour notre pays, on est néanmoins tous investis dans l'idée de préserver l'offre et de ne pas abîmer la beauté du service public. Moi, je crois qu'on a un audiovisuel public en France extrêmement fort, extrêmement puissant, avec une culture incroyable. C'est une richesse. C'est une richesse et des fois, on a tendance à s'habituer et donc à l'oublier. Il faut être fier de la beauté de ce que permet l'audiovisuel public, de ce que permet la radio publique, de ce que permet l'ensemble de ces médias.
C'est un message pour tous ceux qui votent le budget ?
C'est un message pour tous les citoyens français. Winston Churchill disait une phrase qu'on a beaucoup répétée. Pendant la guerre, on lui avait dit « il faut couper le budget de la culture » et il avait répondu « mais alors pourquoi nous nous battons ?»
Merci Stéphane Sidbon-Gomez, ce sera le mot de la fin, directeur des programmes de France Télévisions, France 4, Canal 4. Après-demain, 13h46 sur Inter. Notre feuilleton, nous étions hier en direct au large de Nice, de Villefranche-sur-Mer et du Cap Ferrat pour un 13-14 spécial consacré à la préservation des océans, émission que vous pouvez d'ailleurs réécouter au passage. Et pour prolonger cette navigation, nous allons suivre jusqu'à vendredi le parcours du poisson, de sa pêche jusqu'à l'assiette. Grâce à Cécilia Arbona, nous commençons cette série avec une figure de la pêche artisanale de Saint-Jean-Cap Ferrat, Arnaud Allary. 37 ans, dans sa famille, on est pêcheur depuis 5 générations. Et chaque matin à 5h30, sa silhouette athlétique s'active sur les quais du port.
Le jour de mes 16 ans, j'ai arrêté l'école, j'ai dit, c'est ça que je vais faire. Pour moi, c'est plus un métier de cœur que tout le reste. C'est vraiment, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je suis un élu aussi à la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je m'occupe de tout ce qui est l'environnement de la mer.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en mer ?
Ah, je suis honnêtement au paradis. Tous les jours, c'est un jour nouveau. Des jours, il y a des surprises. Des fois, c'est vraiment, tu te dis, c'est une rouste, mais c'est pas grave. Tu te dis, tu ressors et ça ira mieux demain. Et c'est ça qui est beau dans ce métier.
Ça vous apporte du bonheur,
ah,
ouais.
Oui. Énormément.
Elle est bien la marche que tu as fait à côté du travail, là.
On va se rapprocher des messieurs là-bas, des gens qui viennent vous dire coucou le matin avec le journal.
Ah, tous les jours, ben là, il y a Patrick, il y a Rémi et il y a Jean-Paul. Alors, je vous les présenter. Et en plus, il y en a un, c'est le président du club de pêche de Saint-Jean.
Et c'est vraiment un réel plaisir d'avoir un pêcheur comme ça à Saint-Jean, ouais. Comme il n'y en a plus beaucoup.
Avant, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y avait plus de 20 pêcheurs. Ils ont toujours gagné leur vie avec la pêche. Maintenant, malheureusement, on y est deux. C'est un métier très, très physique, surtout sur les mains. Les mains, elles en morflent énormément. Là, les mains, c'est de soi, à force de...
De tirer. Donc vous, cinquième génération, c'est ça ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une sixième à l'arrivée ?
Je suis bon qu'à faire des filles, alors, malheureusement.
Vos filles ne reprendront pas le métier derrière ?
J'aimerais bien, mais c'est trop compliqué pour une fille. Honnêtement, t'as les mains, elles sont ruinées, t'as les bras pareils. C'est tellement compliqué, rien que les horaires que tu dois faire, les lois qu'on a, il n'y a plus personne qui veut le faire.
On se rapproche des bateaux, bah tiens, il y a encore un monsieur qui arrive.
Ça c'est Carlos, et les menuisiers et tout ça. Comment tu vas ? Non, voilà, ça c'est mon bateau. Bon, là il est sale parce que je dois tout nettoyer. Le samedi, moi je mets mon étal sur le bateau et je vends tout devant, juste à côté des restaurants là-bas. Et ça plaît beaucoup aux personnes de montrer le poisson vivant. Et le poisson il part à une allure phénoménale. Le mercredi, le vendredi juste. Et ah le oui, reste du ça. Temps, c'est pour les restaurants. Si d'accord. vous voulez, je vais vous montrer des langoustes.
Ouais, ouais, je veux bien.
Ça, c'est les belles langoustes, tu vois. Ça, c'est ce que je pêche.
Vous l'avez attrapé quand, celle-là ?
Hier.
Et là, il y en a combien d'autres ?
Oui, il y en a 2, 4, 6, 7 en tout.
Qu'est-ce qu'elles vont devenir ?
Eh bien, celles-là, elles partent après au Royal Riviera.
Et ça, vous savez, quand vous ramenez de la langouste, vous savez que vous allez ah, les oui. vendre. Hein, ouais.
C'est un chapon.
Oh ouais,
c'est vivant. Hein.
C'était quoi?
C'est un chapon. Ouais, ça c'est le poisson.
Ah, on dirait vraiment une rascasse.
Ah ouais. Ben c'est comme des rascasses mais plus gros. Et ça les restaurants hein, adorent ça. Quand tu leur amènes le poisson vivant, chaque époque a son poisson. Mm. C'est comme les fruits et les légumes, c'est pareil. Comme les fleurs, pareil. Moi, le poisson dès qu'il arrive en reproduction, je le laisse tranquille parce que sinon l'année prochaine, eh ben malheureusement, il n'y en a plus. C'est pour ça que fin août, les langoustes on les laisse tranquilles. Toutes les années, on me demande des langoustes pour Noël. Ben, j'en ai pas. Je dis, je suis désolé, je ne pêche pas la langouste pour Noël. Bonjour. Comment ça va, Christian ? Et les gens, tous mes clients le comprennent. Parce que les langoustines, elles auront fini de frayer. Parce qu'elles frayent beaucoup plus tôt, parce que l'eau est beaucoup plus profonde. La température de l'eau est beaucoup plus fraîche. Donc, à partir de août, elles commencent à reproduire la langoustine. Moi, c'est pour ça que même l'été, travailler de 0 à 15 mètres de fond, je ne travaille pas. Pourquoi ? Parce que quand tu cales les filets le soir, que tu les relèves le matin, tu as beaucoup de poissons qui sont abîmés et qui ne sont pas vendables. Donc, pour tuer du poisson, le jeter à l'eau morte, ça ne m'intéresse pas.
Une semaine dans leur vie. Signée cette semaine, Cécilia Arbona, la suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mercredi à 13h50. Le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, vous vous inquiétez cette semaine des conditions de recherche et de mise en lumière de la vérité. Voilà, le mot est lâché. Pourquoi cette interrogation ?
Oui, Jérôme, la vérité, comme la nostalgie, n'est plus ce qu'elle était. Dans ces moments de post-vérité, de vérités alternatives, de fake news à gogo, qui peut-on croire et que faut-il croire ? La difficulté est d'autant plus grande qu'à l'heure des réseaux sociaux, hystérisés, il est devenu impossible de s'accorder même sur de simples faits. Comme l'explique la philosophe, politologue, femme de radio aussi, Géraldine Mühlmann, dans le 1 Hebdo, c'est en effet la vérité de faits, comme l'appelait Hannah Arendt, qui est fragilisée. D'une part parce que des données peuvent être occultées ou modifiées, voire manipulées, exemple avec l'IA. D'autre part, et surtout parce que s'impose dans nos sociétés modernes la petite musique du « à chacun son avis, chacun ses faits, à chacun sa vérité », comme si les faits devenaient de simples opinions. Autrement dit, ajoute Géraldine Mühlmann, une société qui renonce à l'idée qu'existent des faits communs sur lesquels, malgré nos différentes sensibilités, on peut s'accorder, est une société très malade.
Et vous posez dans le 1, Éric, cette question abrupte. Faut-il dire la vérité ? Ça n'est pas évident pour vous de répondre oui.
Et oui, oui ou non. Dans un contexte intime et familial, dire la vérité ne va pas toujours de soi. Jérôme, on peut cacher la vérité à un enfant ou à un conjoint pour ne pas lui faire de peine, à un malade pour ne pas le désespérer et ne pas oublier Malraux. Il est admis que la vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. En politique, nous voyons bien les dégâts que peuvent provoquer les mensonges, en particulier sur la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Deux cas récents. L'affaire de Betarame sur ce que savait François Bayrou à propos des terribles violences commises sur les élèves. Ou le scandale des eaux minérales Perrier révélant que Nestlé a pu frauder sur la qualité de ses eaux en usant de mensonges commerciaux rendus possibles par les silences de l'Élysée. Ces eaux minérales ont fait l'objet de traitements chimiques illégaux dans ces usines du Gard et des Vosges, alors qu'elles doivent être biologiquement saines et embouteillées telles quelles. C'est une commission d'enquête du Sénat qui a mis en lumière ce mensonge d'État.
Est-ce qu'on doit se résoudre, Éric, au constat que gouverner, c'est mentir ?
À l'évidence, une démocratie fonctionnelle a besoin de la vérité pour que le citoyen fasse en toute liberté ce que le philosophe Vincent Giraud, dans le 1, appelle un choix éclairé. Mais on sait depuis Rousseau et Machiavel que le mensonge est en quelque sorte le péché originel et l'instrument nécessaire du pouvoir politique. Le premier, qui ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire. Phrase incroyable de Rousseau, je la répète, car voici le mensonge constitué. Hein, bientôt le bac philo. Et trouva des gens assez simples pour le croire. Celui-là fut le vrai fondateur de la société civile. Quant à Machiavel, il estime, nous dit Vincent Giraud, qu'il y aurait une vérité plus haute que celle que l'on doit moralement dire, appelons ça la raison d'État, qui permettrait la politique du mensonge ou de la vérité altérée. Si toute vérité n'est pas bonne à dire, Jérôme, cela irait tout de même mieux en la disant.
Merci Éric Fotorino, et c'est à lire en ce mercredi dans le 1 Hebdo de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est la chanteuse Larousseau que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Larousseau que l'on a découverte il y a maintenant 27 ans avec son tube « Tu m'oublieras » et qui participera vendredi et samedi à la grande battle Star 80, Star 90. Ça aura lieu à Lille, au stade Pierre Mauroy, et c'est de Gilbert Montagnier qu'elle a souhaité parler, chanteur qu'elle se souvient avoir beaucoup écouté en voiture avec sa mère quand elle était petite.
Ma maman avait des magasins de vêtements et donc elle allait faire ses achats comme on dit chez les grossistes. Et c'était notre moment à nous quoi. On mettait du Gilbert Montagnier à fond dans la voiture et on chantait toutes les deux. Et puis premier concert de ma vie quoi. On m'amène toute petite à l'Olympia.
Vous aviez quel âge ?
6-7 ans, un truc comme ça. Et c'est fou parce que j'ai encore cette image. Mes parents avaient un ami qui était très grand de taille, comme ça, et qui m'a porté sur ses épaules. Et j'ai cette image qui ne me lâche pas, j'ai 45 ans, et je me vois encore sur ses épaules, très grande comme ça, et voir Gilbert Montagnier. Je me disais, c'est incroyable, c'est la personne que j'écoute dans la voiture avec maman. Il est là, il existe. Et je peux crier, quoi. C'est génial.
Vous aviez crié beaucoup ?
J'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup chanté, et ça m'a donné envie beaucoup. Et j'ai rencontré Gilbert après, plus tard, quand j'ai fait ce que j'ai fait avec Tu m'oublieras et tout ça. Et je me souviens être dans les loges d'une émission de Jean-Pierre Foucault. Et Gilbert Montagnier arrive. Il entend ma voix, il m'entend parler, il dit « Mais ça c'est la petite Larousseau, viens ici que je t'embrasse. » Et donc il m'embrasse et moi je suis figée. Et puis il s'en va et je dis à ma mère « Maman, tu te rends compte que Gilbert Montagnier me connaît ?» Et pour moi j'avais gagné un truc incroyable. Et puis on se retrouve sur d'autres émissions. Et puis on devient amis. Et Gilbert, humainement, c'est une leçon d'humanité. C'est quelqu'un qui respire la joie de vivre, qui est tellement généreux, qui réconcilie avec plein de choses. Et puis quand il se met à chanter, c'est la cerise sur le McDo, on va dire.
Musicienne, musicienne, je la voudrais musicienne, irréelle, irréelle. En photo, en aquarelle, bohémienne, bohémienne, sans pays, sans maison, pourvu qu'elle m'aime, est si fragile que le vent l'emporterait.
Cette chanson, Frédéric, est sortie en 1983. Son titre, Musicienne.
Et c'est l'une des chansons préférées de Larousseau.
C'est une très grande chanson par rapport au texte, par rapport à la mélodie, à la douceur qu'il y met en même temps avec beaucoup d'intensité. Et j'aime cette phrase, et j'apprendrai à lui dire je t'aime. Et je trouve que c'est incroyable. Il faut apprendre à dire je t'aime. Et c'est vrai que les gens ne se le disent pas. C'est très dur, on est tous très pudiques, on a de la pudeur mal placée. On ne veut pas laisser les sentiments sortir, non, ça ne se fait pas. Mais si, il faut se dire qu'on s'aime, il faut se dire qu'on est heureux, en amitié, en amour, en tout, même dans le travail, dire à ses collègues le matin qu'on est content de les voir. On a souvent ce truc de dire, une fois que les gens sont partis, qu'on les aime. Faudra peut-être se le dire en face, les gars.
Vous, vous dites beaucoup « je t'aime » ?
Alors moi, j'ai été très pudique. C'est un peu l'éducation méditerranéenne, comme ça, où on est très dans la pudeur. Mais passé un âge où j'ai commencé à le dire, beaucoup. Je le dis beaucoup à mon mari, hein, c'est toute la journée, je lui dis, je lui dis, je lui dis, je lui dis tout le temps. Je le dis à mes parents, beaucoup, à mes frères et sœurs, à mes amis. Il faut le dire. Et je chante pour ça.
Et j'apprendrai à lui dire je t'aime. J'apprendrai tous les mots des poèmes qui font pleurer les jeunes filles comme elle.
Est-ce que vous trouvez que Gilbert Montagnier, il est apprécié à sa juste valeur ?
Non, vraiment pas. Il mériterait d'être encore plus mis en avant, mis en lumière. Ouais, vraiment. Il fait partie des très grandes voix françaises. Vraiment. Je pense que chanter, c'est un don de Dieu. On peut rentrer pas seulement dans les oreilles et dans le cœur des gens, je pense qu'on arrive à rentrer dans les âmes avec la voix. On perce quelque chose. Et Gilbert, sa voix, c'est ça. Ça rentre, ça prend dans l'âme et ça accompagne. Et après, on en a besoin. Il y a quelque chose de très doux et de très fort. Il y a ce truc très américain, très soul comme ça, en chantant en français.
Il est donc venu toucher votre âme.
Ah mais totalement. Gilbert, il a touché mon âme depuis toute petite. et je serai toujours à l'écouter, et je l'ai hein, dans mon téléphone, il y a du Gilbert Montagnier, c'est obligatoire. Tout est magnifique.
Musicienne Gilbert Montagnier, c'était donc Frédéric, le choix de Larousseau.
Larousseau que vous pourrez retrouver à Lille vendredi et samedi pour la grande battle Star 80, Star 90.
Merci Frédéric. Je rappelle, et on a parlé de la disparition de Philippe Labro en ouverture de ce 13-14, qu'il était votre invité en novembre dernier dans C'est une chanson qu'il avait choisi, Blowing in the Wind de Bob Dylan, et qu'on peut évidemment le réécouter. Je vous dis à demain.